Chapitre 56. Le palais Chine sans cage.
Vingt-trois cohortes les suivaient. Contribution du roi de Makabakam. Car, bien que le lien entre homme et Spren fût parfois inexplicable, la capacité qu'acquéraient les Spren liés de se manifester dans notre monde, plutôt que dans le leur, se renforçait à mesure que l'on formulait les serments. Extrait du livre des Radieux, chapitre 35, page 9.
De toute évidence, Amaram ne possède pas de don de fluctomancie, déclara tout bas Sigzil, qui se tenait à côté de Kaladin. Dalinar, Navani, Amaram et le roi sortirent de leur voiture un peu plus loin. L'arène de duel se dressait devant eux, bâtie dans l'une de ces formations rocheuses pareilles à des cratères qui bordaient les plaines brisées. Elle était cependant beaucoup plus petite que celle qui abritait les camps de guerre et équipée de gradins. En raison de la présence conjointe des Lokar et de Dalinar, sans parler de Navani et des deux fils de Dalinar, Kaladin avait amené autant de gardes qu'il avait pu, parmi lesquels une partie des hommes du pont 17 et du pont 2. Ils se dressaient fièrement, levant bien haut leurs lances, visiblement surexcités de se voir confier leur première mission en tant que gardes du corps. Il avait rassemblé au total une quarantaine d'hommes. Aucun d'entre eux ne vaudrait une goutte de pluie si l'assassin en blanc attaquait. « Est-ce qu'on peut en être certain ?» demanda Kaladin en désignant Amaram, qui portait toujours sa cape jaune dorée ornée du symbole des chevaliers radieux. « Je n'ai montré mes pouvoirs à personne. Il doit bien y en avoir d'autres qui s'entraînent comme moi. Nom des foudres, s'il m'a quasiment juré que c'était le cas.
S'il avait ses pouvoirs, il en aurait fait étalage ?» répondit Sigzil. Les ragots se répandent dans les 10 camps de guerre à la vitesse d'une crue. La moitié des gens estiment que ce que fait Dalinar est stupide et blasphématoire. L'autre moitié est sans opinion. Si Amaram dévoile des pouvoirs de fluctomancie, la manœuvre du clarissime Dalinar paraîtra beaucoup plus solide.
Sigzil avait sans doute raison. Cependant, Amaram... Cet homme marchait d'un pas si fier, levant bien haut la tête. Kaladin sentit la chaleur lui monter dans le cou et, l'espace d'un instant, il lui sembla ne plus rien voir d'autre qu'Amaram. Sa cape dorée, son visage hautain. La marque du sang. Cet homme était souillé par la marque du sang. Kaladin en avait pourtant averti Dalinar. Mais Dalinar ne ferait rien. Il faudrait donc que quelqu'un d'autre agisse.
Kaladin ?
Demanda Sigzil. Kaladin s'aperçut qu'il s'était avancé vers Amaram, les mains crispées sur sa lance. Il prit une profonde inspiration, puis tendit le doigt. Placez des hommes là-haut, sur le bord de l'arène. Et Escar se trouve dans la salle de préparation avec Adeline, pour ce que ça lui servira une fois sur le terrain. Placez quelques hommes de plus dans le fond de l'arène, au cas où, et 3 hommes à chaque porte. J'en emmène 6 avec moi autour des places du roi. Kaladin marqua un temps d'arrêt, puis ajouta. Faisons aussi protéger la fiancée d'Adeline par 2 hommes, au cas où. Elle sera assise auprès de Sébarial.
Entendu.
Dites aux hommes de rester concentrés, Essig. Ce sera probablement un combat spectaculaire. Je veux qu'ils gardent à l'esprit la présence potentielle d'assassins, plutôt que le duel.
Il va vraiment affronter 2 hommes à la fois ?
Ouais.
Et il est possible qu'il gagne ?
Je n'en sais rien. Et je m'en fiche pas mal. Notre mission consiste à guetter d'autres menaces. Sigzil hocha la tête et fit mine de partir. Il hésita cependant et prit Kaladin par le bras.
Vous pourriez les rejoindre, Kal, dit-il tout bas. Si le roi reforme les chevaliers radieux, vous aurez un prétexte pour dévoiler votre nature. Malgré tous les efforts de Dalinar, beaucoup de gens considèrent les radieux comme une force malveillante, en oubliant ce qu'ils ont accompli de bien avant de trahir l'humanité. Mais si vous faisiez une démonstration de vos pouvoirs, ça pourrait les faire changer d'avis.
Les rejoindre, sous la direction d'Amaram? Certainement pas. « Allez transmettre mes ordres, dit Kaladin avec un geste, avant de dégager son bras des doigts de Sigzil et de rejoindre au petit trot le roi et son escorte. Au moins, le soleil était-il de sortie aujourd'hui, et l'air printanier très doux. Sil voltait derrière lui.
« Amaram est en train de te détruire, Kaladin, » chuchota-t-elle. « Ne le laisse pas faire. »
Il serra les dents et ne répondit pas. À la place, il alla se positionner près de Moash, responsable d'une équipe qui surveillerait la clarissime Navani. Elle préférait regarder les duels d'en bas, dans les salles de préparation. Une partie de lui se demandait s'il devait laisser Moash surveiller qui que ce soit d'autre que Dalinar, mais après tout, Moash lui avait juré qu'il n'entreprendrait plus rien contre le roi. Kaladin lui faisait confiance sur ce point. Ils étaient le pont 4. « Je vais vous sortir de là, Moash, » songea-t-il en l'entraînant à part. « Nous allons réparer ça. » « Moash, » lui dit Kaladin tout bas, « à compter de demain, je vous affecte aux patrouilles. » Moash fronça les sourcils. « Je croyais que vous aviez toujours voulu que je surveille. » Son expression se durcit. « C'est à cause de ce qui s'est passé, à la taverne. « Je veux que vous entrepreniez une patrouille approfondie, » répondit Kaladin. « Allez jusqu'à la nouvelle Natanan. Je ne veux pas que vous vous trouviez ici quand nous allons attaquer Grave et les siens. » Tout ça durait déjà depuis trop longtemps. « Je ne partirai pas !»« Vous allez le faire, et il n'est pas question de... »« Ce qu'ils font est juste, Cal !» Kaladin fronça les sourcils. « Avez-vous continué à les voir ?» Moash détourna le regard. « Rien qu'une fois, pour leur assurer que vous alliez changer d'avis. » « Il reste que vous avez désobéi à un ordre, » répondit Kaladin. « Moash, nom des foudres !» Les bruits s'intensifiaient à l'intérieur de l'arène. « C'est pratiquement l'heure du duel !» déclara Moash en dégageant son bras de la poigne de Kaladin. « Nous pourrons en reparler plus tard !» Kaladin serra les dents, mais malheureusement, Moash avait raison. Ce n'était pas le moment. « J'aurais dû le prendre à part ce matin. » songea Kaladin. Non, ce que j'aurais dû faire, c'était prendre une décision à ce sujet, il y a déjà un moment. C'était sa propre faute. « Vous allez entreprendre cette patrouille, Moash, » lui ordonna-t-il. « Être mon ami ne vous donne pas le droit d'être indiscipliné. Filez !» Moash s'éloigna en courant pour aller chercher son escouade. Adoline s'agenouilla près de son épée dans la salle de préparation, et s'aperçut qu'il ignorait quoi dire. Il regarda son reflet dans la lame. Deux porte-éclats à la fois. Il n'avait jamais tenté ça, même en dehors du terrain d'entraînement. Il était ardu de combattre plusieurs adversaires. Quand les documents historiques parlaient d'un homme qui en affrontait six à la fois ou ce genre de choses, la vérité était probablement qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à les combattre un par un. Deux à la fois, c'était déjà difficile s'ils étaient préparés et attentifs. Pas impossible, mais très dur. Tout se résume à ça, commença Adeline. Il fallait qu'il dise quelque chose à son épée. C'était la tradition. Soyons spectaculaires. Ensuite, effaçons ce sourire de la figure de Sadeas. Il se leva et renvoya sa lame. Il quitta la petite salle de préparation et emprunta le tunnel orné de peintures et de sculptures représentant des duellistes. Il trouva Renarine qui patientait nerveusement, assis dans la pièce au-delà, vêtu de son uniforme des collines. Il le portait lors de ce genre d'événement public, au lieu de cette saleté d'uniforme du pont 4. Tante Navani retirait le couvercle d'un pot de peinture pour tracer un charme glyphique. « Pas la peine !» dit Adeline, qui en tira un de sa poche. Il était peint du bleu des collines et disait « Excellence ». Navani haussa un sourcil. « La jeune fille ?»« Oui, » répondit Adeline. « La calligraphie n'est pas mauvaise, » admit Navani à contre-cœur. « Elle est formidable, ma tante, » insista Adeline. « J'aimerais tellement que vous lui donniez une vraie chance. Et elle souhaite réellement partager ses connaissances d'érudite avec vous. »« Nous verrons. » répliqua Navani. Elle semblait plus pensive que précédemment au sujet de Chalan. C'était bon signe. Adeline plaça le charme glyphique dans le brasero, puis baissa la tête tandis qu'il brûlait. Une prière pour demander l'aide du Tout-Puissant. Ses antagonistes du jour devaient être en train de brûler leur prière, eux aussi. Comment le Tout-Puissant décidait-il qui aider ? J'ai du mal à croire, songea Adeline en relevant la tête, qu'il veuille aider ceux qui servent Sadeas, même indirectement, à réussir. Je suis inquiète, déclara Navani. Mon père pense que ce plan peut fonctionner, et Elokar l'apprécie vraiment. Elokar peut se montrer impulsif, répondit Navani, qui croisa les bras et regarda brûler les vestiges de son charme glyphique. Les termes changent les choses. Les termes, établis en accord avec Rélis et prononcés face à la haute juge un peu plus tôt, indiquaient que ce duel se poursuivrait jusqu'à la capitulation, plutôt que jusqu'à ce qu'un certain nombre de sections de la cuirasse soient brisées. Par conséquent, si Adeline parvenait à vaincre l'un de ses adversaires et à le faire céder, l'autre pouvait continuer à se battre. Autre conséquence, Adeline n'était pas contraint de mettre fin au duel jusqu'à ce qu'il soit convaincu d'avoir été dépassé, ou jusqu'à ce qu'il soit dans l'incapacité de continuer à se battre. Renarine s'avança pour poser la main sur son épaule.
« Je crois que c'est un bon plan, » déclara-t-il. « Tu peux y arriver. »
« Ils vont tenter de te briser, » ajouta Navani. « C'est pour cette raison qu'ils ont insisté pour que le duel dure jusqu'à la capitulation. Ils vont t'estropier s'ils le peuvent, Adeline. » « Ce n'est pas différent du champ de bataille, » répliqua-t-il. « En réalité, dans le cas présent, ils voudront même me laisser en vie. Je serai un exemple moins parlant sous forme de cendre qu'avec des jambes mortes. » Navani ferma les yeux et prit une inspiration. Elle semblait très pâle. Pour Adeline, c'était un peu comme revoir sa mère. « Un peu. Assure-toi de ne pas laisser de porte de sortie à Sadeas. » lui dit Renarine tandis que les armuriers entraient avec la cuirasse d'Adeline. « Quand tu l'acculeras en lui lançant ce défi, il cherchera un moyen de s'échapper. Ne le laisse pas faire. Traîne-le dans cette arène et réduis-le en charpie, grand frère. »
« Avec plaisir. »«
Alors, tu as mangé du poulet ?» demanda Renarine.
« 2 assiettes avec du curry. »«
Tu as la chaîne de notre mère ?»
Adeline plongea la main dans sa poche, puis dans l'autre.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Renarine, dont les doigts se resserrèrent sur l'épaule d'Adeline. « J'aurais juré l'y avoir glissé. »
Renarine jura.
« Elle est peut-être restée dans mes appartements, » reprit Adeline. « Dans les camps, sur ma petite table basse. »
À supposer qu'il ne l'ait pas effectivement prise et perdue en route. Nom des foudres. Ce n'était qu'un porte-bonheur, ça ne signifiait rien. Malgré tout, il se mit à transpirer tandis que Renarine s'empressait d'envoyer un messager à sa recherche. Il ne serait pas revenu à temps. Adeline entendait déjà la foule à l'extérieur, la clameur croissante qui précédait les duels. À contre-cœur, il laissa ses armuriers entreprendre de lui enfiler sa cuirasse. Lorsqu'ils lui donnèrent son casque, il avait en grande partie retrouvé son rythme. L'anticipation, qui était un curieux mélange d'anxiété dans son estomac et de détente dans ses muscles. On ne pouvait pas se battre lorsqu'on était crispé. Nerveux, oui, mais pas crispé. Il adressa un signe de tête aux serviteurs qui ouvrirent alors les portes et le laissèrent sortir sur le sable. Il devina où se trouvaient les sombres iris rien qu'à leurs acclamations. Par contraste, les pâles iris se firent plus silencieux lorsqu'il émergea. C'était une bonne chose qu'Elokar ait réservé de l'espace pour les sombres iris. Adeline aimait ce bruit. Il lui rappelait les champs de bataille. À une époque, songea-t-il, je n'aimais pas le champ de bataille parce qu'il n'était pas aussi calme que les duels. Malgré ses réticences initiales, il était devenu un soldat. Il s'avança d'un pas vif jusqu'au centre de l'arène. Les autres n'avaient pas encore quitté leur salle de préparation.
« Attaque Rélis en premier, » se dit Adeline. « Tu connais son style de duel. »
Il favorisait la posture de liane,
lente et régulière, mais avec des coups d'estoc soudains et rapides. Adeline ne savait pas avec certitude qui viendrait combattre à ses côtés, même s'il avait emprunté au roi un jeu de lames et de cuirasses. Peut-être son cousin voulait-il faire une nouvelle tentative, par vengeance. Shallan était présente de l'autre côté de l'arène, où ses cheveux roux se détachaient comme du sang sur la pierre. Deux gardes hommes de pont l'accompagnaient. Adeline se surprit à hocher la tête en signe d'approbation et leva le poing vers elle. Elle lui rendit son salut. Adeline sautilla d'un pied sur l'autre, laissant la puissance de la cuirasse le traverser. Même sans la chaîne de sa mère, il pouvait gagner. Seulement, il comptait défier Sadeas à l'issue du combat. Il fallait donc qu'il conserve assez de force pour cet autre duel. Nerveux, il balaya la foule du regard. Sadeas était-il là? Oui, assis un peu à l'écart de père et du roi. Adeline étrécit les yeux, se rappelant le moment d'écrasante révélation où il avait vu les armées de Sadeas se retirer de la tour. Ce souvenir lui rendit son aplomb. Il avait longtemps fulminé en repensant à cette trahison. Il était enfin temps d'y répondre. Les portes s'ouvrirent face à lui, pour laisser entrer quatre hommes en cuirasse. Quatre ! S'exclama Dalinar en se relevant brusquement. Kaladin descendit d'un pas vers le sol de l'arène. Oui, c'étaient tous des porte-éclats qui pénétraient sur le sable de l'arène en contrebas. L'un d'entre eux portait une des cuirasses du roi. Les trois autres portaient la leur, peinte et décorée. En bas, la haute juge affectée à ce duel se retourna vers le roi et le regarda en inclinant la tête. « Que se passe-t-il ? » hurla Dalinar en direction de Sadeas, qui n'était pas assis très loin. Les pâles iris installés entre eux sur les gradins se voûtèrent ou s'enfuirent, laissant un espace dégagé entre les deux hauts princes. Sadeas et son épouse se retournèrent, nonchalamment. « Pourquoi me demandez-vous ça ? » lui cria Sadeas en réponse. « Aucun de ces hommes n'est à moi. Je ne suis qu'un simple observateur aujourd'hui. » « Oh, Sadeas, ne soyez pas pénible !» lui lança Elokar. « Vous savez parfaitement ce qui est en train de se produire. Pourquoi y a-t-il quatre hommes ? Adeline est-il censé choisir les deux qu'il veut affronter ?»« Deux ?» demanda Sadeas. « Quand a-t-il été annoncé qu'il en affronterait deux ?»« C'est ce qu'il a dit lorsqu'il a fixé ce duel !» cria Dalinar. « Un duel avec handicap contre un double adversaire, à deux contre un, selon les conventions !»
« En réalité, répliqua Sadeas, ce n'est pas ce pourquoi le jeune Adeline a donné son accord. Je sais de source tout à fait sûre qu'il a dit au prince Rélis « Je vous combattrai avec qui vous choisirez ». Je n'entends là aucune précision quant au nombre, ce qui soumet Adeline à un duel avec handicap contre des adversaires multiples, pas seulement contre un double adversaire. Rélis peut amener autant d'hommes qu'il le souhaite. Je connais plusieurs scribes qui ont consigné les termes exacts d'Adeline, et j'ai entendu dire que la haute juge lui avait demandé spécifiquement s'il comprenait ce qu'il faisait, et qu'il avait répondu que oui.
Dalinar gronda tout bas. C'était un bruit que Kaladin n'avait jamais entendu chez lui, le grognement d'une bête enchaînée. Il en fut surpris. Le haut prince se contint toutefois, et se rassit d'un geste brusque. « Il nous a eus par la ruse, » dit tout bas Dalinar au roi. « Une fois de plus, nous allons devoir nous retirer et réfléchir à notre prochaine manœuvre. Que quelqu'un ordonne à Adeline de se retirer du duel. »«
Vous êtes sûr ?» demanda le roi. « Pour nous retirer, mon oncle, il faudrait qu'Adeline abandonne. Il y a six éclats en jeu, je crois, tout ce que vous possédez. »
Kaladin lut le dilemme sur les traits de Dalinar. Le front plissé, la fureur ardente qui lui montait aux joues, l'indécision dans ses yeux. Renoncer, sans combattre, c'était sans doute la chose à faire. Kaladin n'était pas sûr que lui-même en aurait été capable. En bas, après une pause prolongée, paralysé sur le sable, Adeline leva la main en signe d'accord. La juge donna le signal de départ.
Je suis un crétin, un vrai crétin des foudres.
Adeline courut en arrière à travers le cercle ensablé de l'arène. Il allait devoir tourner le dos au mur pour éviter de se retrouver entouré d'adversaires, ce qui signifiait qu'il commencerait le duel sans aucun endroit où se retirer, enfermé dans une boîte, cerné. Pourquoi ne s'était-il pas montré plus précis? Il percevait les lacunes de son défi. Il avait accepté un duel contre des adversaires multiples, à son insu. Il aurait dû formuler spécifiquement que Rélis pouvait apporter un homme de plus. Mais non. Ça aurait impliqué de la jugeote de sa part, et Adeline n'était qu'un crétin des foudres. Il reconnut Rélis à sa cuirasse et à sa lame, entièrement peinte d'un noir intense, ainsi qu'à sa cape arborant la paire de glyphes de son père. L'homme qui portait la cuirasse du roi, à en juger par sa taille et sa démarche, devait effectivement être Élite, le cousin de Rélis, venu chercher sa revanche. Il portait un énorme marteau plutôt qu'une lame. Tous deux traversèrent l'arène d'un pas prudent et leurs deux compagnons vinrent se placer chacun d'un côté, l'un en orange, l'autre en vert. Adeline reconnut les cuirasses. Il devait s'agir d'Abrobadar, un porte-éclat en bonne et due forme du camp d'Aladar, et de Jacquamave, portant la lame du roi que Rélis avait empruntée. Jacquamave, l'ami d'Adeline. Adeline jura. Ces deux-là faisaient partie des meilleurs duellistes du camp. Jacquamave aurait remporté sa propre lame des années auparavant s'il avait été autorisé à risquer sa cuirasse. Voilà qui avait apparemment changé. L'avait-on acheté, ainsi que sa maison, en lui promettant une part du butin? Tandis que la lame se matérialisait dans sa main, Adeline recula à l'ombre fraîche du mur entourant le sol de l'arène. Juste au-dessus de lui, des sombres iris poussèrent de grands cris sur leurs bancs. Adeline ne parvenait pas à déterminer s'ils étaient surexcités ou horrifiés par ce qu'il affrontait. Il était venu ici dans l'intention de livrer un combat spectaculaire, au lieu de quoi ils auraient le contraire, un massacre rapide. En tout cas, il avait lui-même construit ce bûcher. S'il devait y brûler, au moins allait-il commencer par se battre. Élite et Rélis s'approchèrent furtivement, l'un en gris ardoise, l'autre en noir, tandis que leurs alliés longeaient les côtés. Ces deux-là resteraient en arrière pour tenter d'obliger Adeline à se concentrer sur les deux qui lui faisaient face. Ensuite, les autres pourraient l'attaquer depuis les côtés.
« Un à la fois, gamin !»
Un cri provenant de la tribune semblait se distinguer des autres. Était-ce la voix de Zaël ?«
Vous n'êtes pas cerné !»
Rélis s'avança en un mouvement rapide pour mettre Adeline à l'épreuve. Ce dernier s'éloigna d'un pas sautillant en adoptant la posture du vent. Certainement la meilleure contre un si grand nombre d'adversaires, tout en tenant sa lame à deux mains devant lui, positionnée de côté, avec un pied en avant. « Vous n'êtes pas cerné. » Que voulait dire Zaël? Bien sûr que si, il était cerné. C'était la seule manière d'affronter quatre hommes à la fois. Et comment aurait-il bien pu les affronter un à la fois? Il ne le laisserait jamais faire. Rélis tenta de nouveau d'avancer, obligeant Adeline à reculer latéralement le long du mur, concentrée sur lui. Il devait toutefois trouver un moyen de se retourner pour faire face à Rélis, ce qui placerait Abrobadar, qui approchait de l'autre côté, vêtu d'orange, dans son angle mort. Nom des foudres!
« Ils ont peur de vous !»
la voix de Zaël, qui dominait de nouveau la clameur de la foule.
« Est-ce que vous le voyez en eux? Montrez-leur pourquoi !»
Adeline hésita. Rélis s'avança et porta l'un des coups de la posture de pierre, la posture idéale pour rester immobile. Élite suivit, tenant son marteau en un geste protecteur. Il fit reculer Adeline le long du mur en direction d'Abrobadar. Non. Adeline avait réclamé ce duel. Il l'avait voulu. Pas question qu'il se transforme en rat effrayé. Montrez-leur pourquoi. Adeline attaqua, Il s'élança vers l'avant et fit pleuvoir une volée de coups sur Rélis. Élid s'écarta alors d'un bond en jurant. Il ressemblait à des hommes armés de lances qui titillaient un paléchine. Et ce paléchine-là n'était pas encore en cage. Adoline attaqua Rélis avec un grand cri et parvint à toucher son casque et son canon d'avant-bras gauche, ce qui fendit ce dernier. La fulgiflamme s'éleva de son avant-bras. Tandis qu'Élid reprenait ses esprits, Adoline pivota vers lui et frappa, laissant Rélis sonner par le coup. L'attaque força Élid à reculer son marteau et à parer à l'aide de son avant-bras pour éviter qu'Adoline ne tranche le marteau en deux et ne le laisse désarmer. C'était là ce qu'avait voulu dire Zaël. Attaquer avec fureur, ne pas leur laisser le temps de réagir ni d'estimer la situation. Quatre hommes. S'ils parvenaient à les intimider assez pour qu'ils hésitent, peut-être... Adoline cessa de réfléchir. Il laissa le flux du combat le consumer, le rythme de son cœur guider la cadence de son épée. Élid jura et recula tandis que la flamme s'échappait de son épaule et de son avant-bras gauche. Adoline se retourna et asséna un violent coup d'épaule à Rélis, qui reculait pour adopter sa posture. Le coup fit basculer à terre l'homme à la cuirasse noire. Puis, avec un cri, Adoline se retourna pour attaquer Abrobadar de front, quand celui-ci se précipita pour aider Rélis. Adoline adopta à son tour la posture de pierre, abattit son épée encore et encore contre celle que levait Abrobadar, jusqu'à ce qu'il entende des grognements, des jurons. Jusqu'à ce qu'il sente la peur s'échapper de l'homme en orange comme une puanteur et distingue des sprènes de peur sur le sol. Élid approcha, sur ses gardes, tandis que Rélis se relevait tant bien que mal. Adoline adopta de nouveau la posture du vent et décrivit un coup d'épée ample et fluide autour de lui. Élid s'éloigna d'un bond, et Abrobadar recula en titubant, appuyant sa main gantée contre le mur de l'arène. Adoline se retourna vers Rélis, qui avait plutôt bien repris ses esprits. Malgré tout, Adoline réussit à toucher une deuxième fois le plastron du champion. S'ils s'étaient trouvés sur un champ de bataille et qu'ils avaient été des adversaires ordinaires, Rélis serait mort, Élid estropié. Adoline n'avait encore reçu aucun coup. Mais ce n'étaient pas des adversaires ordinaires. C'étaient des porte-éclats. Et un deuxième coup porté contre le plastron de Rélis ne perça pas l'armure. Adoline fut contraint de se retourner vers Abrobadar avant d'en avoir envie. Et il était maintenant préparé pour la fureur de l'attaque, l'épée levée en signe de défense. La pluie de coups d'Adoline ne l'étourdit pas cette fois-ci. Il les encaissa, tandis qu'Élid et Rélis se mettaient en position. Il fallait simplement... Quelque chose percuta violemment Adoline par derrière. Jacamav. Adoline avait trop attendu, et il avait permis au quatrième homme, son ami, soi-disant, de se mettre en place. Adoline fit volte-face dans un nuage de flammes s'échappant de sa dossière. Il leva son épée pour parer l'attaque suivante de Jacamav, mais exposa ainsi son flanc gauche. Élid frappa, et son marteau alla s'écraser contre le flanc d'Adoline. La cuirasse se fendit, et le coup déséquilibra celui-ci. Il pivota sur lui-même, soudain désespéré. Cette fois, ses adversaires ne reculèrent pas. Jacamav chargea, tête baissée, sans même frapper. Très malin. Son armure verte n'avait pas encore été touchée. La manœuvre permit à Adoline d'abattre son épée pour le frapper dans le dos, mais lui fit perdre sa posture. Adoline recula en titubant, évitant à grand-peine de se retrouver projetée à terre quand Jacamav le percuta. Adoline l'écarta brusquement, parvint sans trop savoir comment garder sa lame en main, mais les trois autres approchèrent. Les coups se mirent à pleuvoir sur ses épaules, son casque, son plastron. Bourrasque. Ce marteau frappait fort. La tête d'Adoline se mit à résonner. Il avait failli y arriver. Il s'obligea à sourire tandis qu'il le criblait de coups. Quatre à la fois, et il avait failli y arriver. « Je capitule !» annonça-t-il d'une voix étouffée par son casque. Ils continuèrent à l'attaquer. Il répéta plus fort. Personne n'écouta. Il leva la main pour faire signe à la juge d'interrompre le duel, mais on lui plaqua violemment le bras au sol. « Non !» se dit-il en se débattant sous l'effet de la panique. La juge ne pouvait pas mettre fin au duel. S'il en sortait vivant, il serait estropié.
Ça suffit !» s'écria Dalinar en regardant les quatre porte-éclats se succéder pour frapper Adeline, qui était manifestement désorientée, à peine capable de les repousser. « Le règlement autorise Adeline à obtenir de l'aide, du moment que son camp est désavantagé. Un membre de moins que l'équipe de Rélis. Elokar, je vais avoir besoin de votre lame d'éclat. »«
Non !» répondit Elokar.
Le roi était assis à l'ombre, avec les bras croisés. Ceux qui les entouraient regardaient le duel. Non, le massacre, en silence.
« Elokar !» s'exclama Dalinar en se retournant. « C'est mon fils !»«
Vous ne portez pas de cuirasse !» répliqua Elokar. « Si vous prenez le temps d'en enfiler une, vous arriverez trop tard. Si vous descendez, vous ne sauverez pas Adeline. Vous perdrez simplement ma lame en plus des autres !»
Dalinar serra les dents. Il y avait là un fond de sagesse, et il le savait. Adeline était perdue. Il devait mettre fin au duel dès à présent, afin de ne pas risquer davantage.
« Vous pourriez l'aider, vous savez ?»
La voix de Sadeas. Dalinar se retourna vers lui.
« Les conventions de duel ne l'interdisent pas, »
poursuivit Sadeas, assez fort pour que Dalinar l'entende.
« Je m'en suis assuré. Jusqu'à 2 personnes peuvent venir en aide au jeune Adeline. L'épine noire que j'ai connue autrefois y serait déjà, en train de se battre avec une pierre s'il le fallait. J'imagine que vous n'êtes plus cet homme-là. »
Dalinar prit une vive inspiration, puis se leva. « Elokar, je vais payer la somme et vous emprunter votre lame en invoquant la tradition de la lame du roi. De cette manière, vous n'allez pas risquer de la perdre. Je vais me battre. »
Elokar le saisit par le bras et se leva.
« Ne dites pas de bêtises, mon oncle. Écoutez-le. Vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire. De toute évidence, il veut que vous descendiez vous battre. »
Dalinar se retourna pour fixer le roi droit dans les yeux. Ils étaient vert pâle, comme ceux de son père.
« Mon oncle !» poursuivit Elokar en resserrant les doigts sur son bras. « Écoutez-moi pour une fois. Montrez-vous un peu paranoïaque. Pourquoi sa déesse voudrait-il que vous descendiez dans l'arène? Pour qu'un accident puisse se produire. Il veut vous éliminer, Dalinar. Je vous garantis que si vous descendez sur le sable, ils vont immédiatement vous attaquer tous les quatre. Lame d'éclat ou pas, vous serez mort avant d'avoir pu adopter une posture. »
Dalinar respirait très fort. Elokar avait raison. Bourrasque, il avait raison. Il fallait cependant que Dalinar fasse quelque chose. Un murmure s'éleva de la foule, des chuchotements rappelant des grattements sur du papier. Dalinar se retourna pour découvrir que quelqu'un d'autre rejoignait le combat, quittant la salle de préparation en tenant nerveusement sa lame d'éclat à 2 mains, mais sans porter de cuirasse. Rénarine. Oh non! L'un des attaquants s'écarta, faisant crisser le sable sous ses pieds cuirassés. Adeline se précipita dans cette direction, se débattant pour échapper aux 3 autres. Il se retourna et recula. Sa cuirasse commençait à peser lourd. Quelle quantité de fulgiflamme avait-il perdu? Pas de partie brisée, songea-t-il. L'épée brandie vers les 3 autres hommes qui se déployaient pour avancer vers lui. Peut-être pouvait-il... Non. Il était temps d'en finir. Il se sentait idiot. Mais mieux valait être un idiot vivant qu'un idiot mort. Il se tourna vers la haute juge pour signaler sa capitulation. Elle devait tout de même bien le voir à présent.
« Adeline !» dit Rélis en s'avançant, laissant échapper de la flamme par plusieurs petites fissures sur la poitrine de sa cuirasse.
Nous ne voudrions tout de même pas mettre prématurément fin au duel, n'est-ce pas?
Quelle gloire croyez-vous tirer d'un tel combat?
Cracha Adeline en tenant prudemment son épée, prêt à donner le signal.
Vous croyez que les gens vont vous acclamer pour avoir battu un homme à 4-1?
Ce n'est pas une question d'honneur, répliqua Rélis, simplement de châtiment.
Adeline ricana. Alors seulement, il remarqua quelque chose de l'autre côté de l'arène. Rénarine, vêtue du bleu des collines, tenant une lame d'éclat tremblante, défiant Abrobadar qui se tenait avec son épée sur l'épaule comme s'il ne se sentait absolument pas menacé.
« Rénarine !»
cria Adeline. « Nom des foudres, qu'est-ce que tu fais? Retourne !» Abrobadar attaqua, et Renarin para maladroitement le coup. Renarin s'était jusqu'à présent systématiquement entraîné en portant sa cuirasse, mais il n'avait pas eu le temps d'aller la chercher. Le coup d'Abrobadar lui arracha pratiquement l'arme des mains. « Donc, déclara Rélis en s'approchant d'Adeline, Abrobadar, ici présent, apprécie beaucoup le jeune Renarin et ne souhaite pas lui faire de mal. Il va donc garder le jeune homme engagé et se battre équitablement. Tant que vous êtes décidé à respecter votre promesse et à livrer un bon duel contre nous, si vous capitulez comme un lâche, ou si vous faites en sorte que le roi mette fin au duel, il n'est pas impossible que l'épée d'Abrobadar dérape. » Adeline sentit la panique monter en lui. Il se tourna vers la haute juge. Elle pouvait donner elle-même le signal de la fin si elle avait le sentiment que c'était allé trop loin. Assise sur son siège, elle le regardait d'un air autoritaire. Adeline crut déceler quelque chose derrière son expression si calme. « Ils exercent une influence sur elle, se dit-il, au moyen d'un pot de vin peut-être. » Adeline resserra sa prise sur sa lame et se retourna vers ses trois adversaires. « Espèce de salopard !» murmura-t-il. « Jacquamav, comment osez-vous y prendre part ?» Jacquamav ne répondit pas. Adeline ne voyait pas son visage derrière son casque vert. « Donc, reprit Rélis, et si nous y allions ?» Adeline répondit en chargeant. Dalinar atteignit le siège de la juge qui reposait sur sa propre petite estrade de pierre, dominant le terrain de duel de quelques centimètres. La clarissime Istov était une femme de haute taille, aux cheveux grisonnants, qui regardait le duel, assise avec les mains sur le giron. Elle ne se retourna pas quand Dalinar s'approcha d'elle. « Il est temps de mettre fin au duel, Istov, » lui dit-il. « Donnez le signal. Accordez cette victoire à Rélis et à son équipe. » Elle garda le regard braqué sur le combat. « M'avez-vous entendu ?» insista Dalinar. Elle ne répondit pas. « Très bien, » reprit-il. « Dans ce cas, je vais y mettre fin. »« Ici, c'est moi, le haut prince, Dalinar, » répliqua-t-elle. « Dans cette arène, ma parole est la seule loi, et c'est l'autorité du roi qui m'a accordé ce droit. » Elle se tourna vers lui. « Votre fils n'a pas capitulé, et il n'est pas hors d'état de combattre. Les termes du duel n'ont pas été remplis, et je ne donnerai pas le signal de la fin avant qu'il ne l'ait été. » « N'avez-vous donc aucun respect pour la loi ?» Dalinar serra les dents, puis se retourna vers la reine. Renarin combattait l'un des hommes. Le garçon avait à peine été formé à se battre à l'épée. Dalinar vit l'épaule de Renarin agitée de violents soubresauts. L'une de ses crises. Adeline combattit les trois autres après s'être de nouveau jetée au milieu d'eux. Ils se battaient magnifiquement, mais ne parvenaient pas à les repousser tous à la fois. Les trois adversaires le cernèrent et frappèrent. La spalière gauche d'Adeline explosa en une gerbe de métal fondu, dont les fragments fendirent l'air avec un sillage de fumée, tandis que le fragment principal glissait sur le sable un peu plus loin. La chair d'Adeline se retrouva exposée à l'air libre, ainsi qu'aux lames qui l'affrontaient. « Je vous en prie, tout-puissant. » Dalinar se retourna vers la tribune remplie de spectateurs pâles iris. « Vous parvenez à regarder ça ?» leur cria-t-il. « Mes fils se battent seuls. Il y a des porte-éclats ici. N'y en a-t-il aucun parmi vous pour se battre à leur côté ?» Il balaya la foule du regard. Le roi fixait ses pieds. « Amaram ? Qu'en était-il d'Amaram ?» Dalinar le trouva assis près du roi. Dalinar croisa son regard. Amaram détourna le sien. « Non. Que nous est-il arrivé ?» demanda Dalinar. « Où est notre honneur ?»« L'honneur est mort, » chuchota une voix près de lui. Dalinar se retourna pour regarder le capitaine Kaladin. Il n'avait pas remarqué que l'homme de pont avait descendu les marches derrière lui. Kaladin prit une profonde inspiration, puis se tourna vers Dalinar. Mais je vais voir ce que je peux faire. Si l'issue se révèle défavorable,
prenez soin de mes hommes. » Lance en main, il saisit le bord du mur, se hissa par-dessus, puis se laissa tomber sur le sable de l'arène.